Ensemble, j'ai oublié de prendre mes lunettes. Mes yeux. Je me suis arrêté sur un verset, ça sera juste un verset d'introduction. Ce passage, il se trouve dans la première épître de Paul aux Colossiens. C'est la dernière phrase du verset, dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 27, quand l'apôtre Paul dit ceci, Christ, on le connaît ce verset, surtout la fin du verset, Christ en vous, vous rappelez, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il y a ce dernier mot qui m'a interpellé, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors bien sûr, pour voir la gloire de Dieu, il faut que Christ soit en nous. Si Christ n'est pas en nous, ça va être difficile de voir la gloire de Dieu. Et j'ai réfléchi sur la gloire de Dieu. Qui n'a pas prononcé une fois le mot gloire de Dieu ou la gloire ou glorieux ? Personne. Des dizaines et des centaines de fois, on a prononcé ce mot, gloire à Dieu, la gloire de Dieu, ça a été souligné. On chante la gloire de Dieu. On prie pour que la gloire de Dieu se manifeste, on loue la gloire de Dieu, on témoigne de la gloire de Dieu, on parle de la gloire de Dieu et on prêche la gloire de Dieu. Et alors j'ai regardé un petit peu, c'est pas compliqué, hein, vous prenez une concordance, vous regardez le mot gloire, glorieux, mais c'est des dizaines et des dizaines de fois, voire une centaine de fois où il est question de la gloire de Dieu. Alors, on pourra pas tout voir, hein. On pourrait peut-être le voir même étalé sur une année, parce qu'il y a un enseignement formidable. À chaque fois qu'il est question de la gloire de Dieu, il y a une manifestation de la part du Seigneur. Et moi, ce que je veux pour vous, et pour moi aussi, excusez-moi, ça vous fait rien, je dis pour moi aussi, l'apôtre Paul, il dit priez pour moi aussi, hein. On a besoin aussi, les serviteurs de Dieu. Vous savez qu'on est les cibles, j'ouvre une parenthèse, vous savez qu'on est les cibles, on est tous des cibles. La Bible dit que le diable, il nous accuse nuit et jour dans le livre de l'Apocalypse. Et s'il peut faire tomber un serviteur de Dieu, eh bien, il aura gagné, les brebis vont se disperser. Donc la parole de Dieu nous enseigne aussi à prier les uns pour les autres. Amen. La gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans l'assemblée d'Aubagne. Quand ça me brûle de commencer, mais il faut y aller par étapes, hein, d'accord. Et quand on regarde là où la gloire de Dieu s'est manifestée, mais il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé à chaque fois. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors pour tout vous dire, normalement, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Personne ne peut ressentir la gloire de Dieu. Humainement, on ne peut pas. J'ai fait une recherche dans la Bible et on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Alors, comment ça se fait qu'on peut parler de la gloire de Dieu ? C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Vous le connaissez, ce verset, dans Romains chapitre 3, verset 23, quand il dit que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Alors je dis, Seigneur, mais alors tu me dis de parler de la gloire, et déjà on est tous privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'on est privés humainement, charnellement, on est tous privés de la gloire de Dieu. Dans le verset 10 du chapitre 3 des Romains, il dit que tous ont péché, qu'il n'y a pas un juste, tous ont péché. Hein? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on fait pour voir la gloire de Dieu? Il y a la grâce de Dieu qui intervient, bien sûr. Et je pensais à ce verset, ça c'est l'équilibre de la parole, ça c'est l'équilibre du Seigneur. Quand Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean au chapitre 11, c'est un chapitre charnière, vous savez. Vous rappelez ce que c'était le chapitre 11? Coucou, vous êtes là? Chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Vous vous rappelez? C'est un chapitre important dans l'évangile de Jean. Jésus va ressusciter Lazare. Et on connaît le dialogue qu'il y a eu avec Marthe. Marthe, elle dira, si tu étais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, etc. Et Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Et il dira, roulez la pierre. Mais Marthe dira, mais non, roule pas la pierre. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Et qu'est-ce que Jésus dira? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et là, tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous donne le moyen de voir sa gloire. Et le seul moyen pour voir sa gloire, c'est la foi. C'est de croire. Si tu crois, croire c'est quoi? C'est la foi. Si tu manifestes la foi, et ça la foi elle est donnée à tous ses enfants, à tous ceux qui ont décidé de marcher avec lui. J'ai cru comprendre d'après un don spirituel que peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui n'ont pas encore fait la paix, qui doivent donner leur cœur au Seigneur. Ça, il était dit qu'il se tenait à la porte, Apocalypse chapitre 3, et qu'il frappe. Amen. Et quand on décide de marcher avec Dieu, là, au travers, au moyen que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la foi, on voit la gloire de Dieu. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il n'a pas dit si tu vois, tu verras, il lui a dit si tu crois. Et croire, c'est la foi, et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi. Amen. Les gens, ils marchent par la vue, et Paul dira que nous, on doit marcher par la foi. Gloire à Dieu. Et si on manifeste la foi, on voit la gloire de Dieu. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il est question à chaque fois d'une manifestation de la foi, et puis la gloire de Dieu, elle s'est manifestée. Je pensais aussi à ce verset qu'on retrouve dans aussi un passage important, puisqu'il est question du premier miracle de Jésus. Allez, c'était lequel le premier miracle de Jésus ? Les noces de Cana, chapitre 2 de l'évangile de Jean, du verset 1er au verset 11. Et là, il va changer l'eau en vin. Et dans le verset 11, il est dit, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. » Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite ?« Il manifesta sa gloire et ses disciples vont croire en lui. » Amen. Il manifeste sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Donc, il est bien question de la foi. Le Seigneur nous ouvre les portes du ciel au travers de la foi. Gloire à Dieu. Et quand on poursuit la réflexion sur la gloire de Dieu, on se rend compte que tout le monde ne voudront pas de la gloire de Dieu. Ceux qui vont s'engager, ceux qui vont marcher avec Dieu, ceux qui vont faire confiance au Seigneur, ceux qui vont vivre pour le Seigneur vont voir la gloire de Dieu. Mais je pensais à ce texte, un premier texte, on va lire quand même, ça va? Après vous allez dire, ah, ce pasteur il lit pas dans la Bible. Non, non, on lit, on va lire. Verset 43 de l'évangile de Jean, c'est juste, et regardez ce qu'il est dit, j'aurais pu le citer de mémoire aussi, car ils aimèrent, Jean chapitre 12 verset 43, ils vont aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des hommes, des personnes qui ne voudront pas de la gloire de Dieu. Ils vont aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean chapitre 12 verset 43. Et Jésus fait allusion à un prophète. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a rappelé un petit peu l'appel de cet homme. Verset 41, regardez ce qu'il est dit. Vous avez Jean 12, 41 ? Venez avec votre Bible ou le smartphone ou n'importe quoi, mais quelque chose qui marque la parole de Dieu. Elle est aussi inspirée sur le téléphone que sur le papier. Hein, c'est pareil. Hein. L'inspiration, elle est la même. Hein. Regardez ce qu'il est dit. Ésaïe, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et quand on regarde... De quel passage il s'agit là quand il a vu sa gloire. Vous vous rappelez de quel passage il s'agit? Peut-être pas, hein. Mais c'est quand il va répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 8, il est dit ceci, le verset 1er, l'année de la mort du roi Ozias, il va voir le Seigneur sur un trône très élevé. Ça, c'est le verset premier. Et les pans de sa robe, vous imaginez un peu, moi je suis un peu enfantin, mais il a vu que le pan de sa robe remplir le lieu. Et là, il va réaliser une chose. Et d'abord, il est question des séraphins qui se couvraient le visage, qui se couvraient le corps et deux ailes pour voler. Et ils vont aller jusqu'à l'autel. Et qu'est-ce qu'ils disaient les séraphins, vous vous rappelez? Saint, Saint, Saint et l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Et il va venir avec, un des séraphins va prendre des pincettes, il va prendre une pierre, Il va toucher les lèvres d'Ésaïe, parce que Ésaïe va confesser, il dira, mais j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu l'Éternel, etc., etc. Et là, il va être touché, il va être purifié, et il va être sanctifié, et ce n'est qu'à partir de là. Voyez, quand on fait un petit peu le résumé, ce n'est qu'à partir de là qu'il va entendre. Il n'a pas entendu avant la voix. D'abord, il a confessé ses fautes, son péché, il a réalisé sa nature, et c'est là qu'il va entendre le Seigneur dire « Qui enverrai-je » et qu'il va répondre au verset 8 « Me voici, envoie-moi ». Et là, il a vu la gloire de Dieu. Et quand Jésus reprend ce texte du verset 41 de l'évangile de Jean, il fait allusion à ce passage-là. C'est à partir de là qu'il a commencé son ministère de prophète, Ésaïe. Et quand on lit le livre du prophète Ésaïe, vous savez, Ésaïe est appelé le prophète assoiffé. Vous avez soif de Dieu ? Que Dieu, je vous prêche, mais je me prêche, pensez pas que nous, j'ai soif de Dieu. Hein, renouvelle-moi dans la soif, dans ta soif, Seigneur. Hein, que notre soif soit, vous savez, quand on a soif, c'est terrible. Hein, moi, je fais du vélo. Je fais du vélo dans la région, même la région d'ici, d'Aubagne et tout, je connais. Mais quand vous faites du vélo en été, il faut prendre deux gourdes et il faut faire son programme avec les villages où l'eau elle coule comme ça dans les fontaines. Oh là là, c'est formidable. Elle est glacée l'eau, hein, et ça désaltère. Et on a besoin d'être désaltéré par le Seigneur. Oui, Seigneur, crée toujours en moi la soif. Ésaïe est appelé le prophète assoiffé. Quand on lit le livre du prophète Ésaïe, on retrouve quand même des prophéties, mais c'est à partir de là qu'il a pu prophétiser. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il va prophétiser sur qui ? Sur la venue de Jésus. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et on sait que Emmanuel signifie « Dieu est avec nous ». Il va encore prophétiser sur Jésus, de la naissance encore, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, quand il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, conseiller et prince de la paix. » Et il y a toutes ces prophéties. Après, il y a même la prophétie dans Ésaïe 53, où les Juifs, quand ils lisent le chapitre 53, ils le sautent. Parce qu'il parle que de Jésus, là. Ça parle que de Jésus. Hein, il s'est élevé comme une faible plante, etc., etc. Mais Ésaïe a vu la gloire de Dieu d'abord, il a répondu à l'appel, et ensuite, et le Seigneur dit, mais il y en a qui ne voudront pas de la gloire de Dieu. Il y a des hommes qui ne voudront pas, et ça on le sait. Mais je vous tenais quand même à le souligner, pour essayer d'être le plus équilibré possible. On va maintenant regarder un petit peu quelques passages où il est question de la gloire de Dieu. Le premier qui m'a touché, qui m'a interpellé, si vous avez votre Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7 et au verset 55, avec l'histoire d'Étienne. Vous vous rappelez d'Étienne ? Ça a été le premier martyr des chrétiens. Hein ? Il était chrétien, il était diacre, et il a même progressé. De diacre, il est passé évangéliste, il est passé serviteur de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une progression, il peut y avoir une progression, on peut commencer. Et souvent, les stagiaires, quand j'étais stagiaire à l'époque, d'abord ils nous éprouvaient à faire des tâches matérielles. Et à l'époque, ils ne nous rataient pas. Hein. Ils ne nous rataient pas, hein, les aînés. Moi, je bénis Dieu. Hein. Mais là, c'est pareil. Étienne, il a commencé à servir aux tables, acte chapitre 6, et ensuite, il y a eu une marque sur cet homme, et regardez ce qu'il est dit, on va y venir. Hein. Et là, on voit qu'il a vu la gloire de Dieu. Ésaïe, acte chapitre 7, verset 55, « Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Quand même. Alors là, quand on lit l'histoire, on sait comment il a fini, Étienne. Et l'enseignement qu'on peut retirer, c'est que des fois, on va voir la gloire de Dieu, mais ça va nous coûter, et ça peut nous coûter. Et on peut passer par des temps d'épreuve, des temps de difficulté. Et c'est, il y a la gloire de Dieu, mais il y aura aussi l'épreuve, et il y aura aussi les difficultés. Et qui n'est pas passé par une épreuve, qui n'est pas passé par une difficulté? En tout cas, si vous n'êtes pas passé, je suis pas un prophète de malheur, mais Il me semble que c'est un petit peu le lot, des fois, pour nous ramener à la parole, pour nous ramener à la personne de Jésus, pour nous tenir dans l'humilité. Et là, ça lui a coûté sa vie à Étienne. Mais il a quand même vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Seigneur. Et là, on y voit déjà une qualité de celui qui voit la gloire de Dieu. Alors, la qualité, elle est écrite. Qu'est-ce qu'il a dit d'Étienne? Il était rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est la marque. Hein, on doit rechercher la vie du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Ce sont ceux qui seront remplis, qui verront aussi la gloire de Dieu se manifester. Amen. Merci pour le mouvement de Pentecôte. Merci pour le Saint-Esprit. Merci. Amen. Merci pour la personne du Saint-Esprit. On croit toujours au Saint-Esprit. Hein, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a touchés. C'est lui qui nous a amenés dans des lieux comme celui-ci. Hein. Amen. C'est lui qui a touché nos cœurs. Être rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et il a vu la gloire du Seigneur. Il y a un autre aspect aussi pour voir la gloire de Dieu. Regardez au verset 51, acte 7, 51. Je regarde la montre. Il dit ceci, homme au cou raide, regardez ce qu'il leur dit. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Moi, j'aurais pas osé. Hein. C'est contemporain. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et je crois que pour voir la gloire de Dieu, il faut pas flirter avec le péché et le dénoncer. Et c'est parce qu'il dénonce le péché qu'il a vu la gloire de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de compromis avec le péché. Hein. Souvent, dans les réunions de jeunesse, c'est tolérance. Alors, on le dit avec les jeunes, mais on peut le dire avec tout le monde. Hein. Non, vous ne croyez pas? Tolérance zéro. Il dénonce le péché. Ce que vos pères, quand même, il va les titiller là, il va les piquer. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, etc. Vous êtes incirconcis de cœur, alors que la vraie circoncision, quand on lit dans l'épître de Paul aux Romains, j'ouvre 30 secondes une parenthèse, c'est la circoncision du cœur. C'est pas la circoncision de la chair. Et Paul lui-même, il dit, mais c'est pas le juif, c'est pas celui qui est circoncis dans la chair, mais c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Amen. Et vous savez que la circoncision, c'était couper le prépuce, et pour nous, spirituellement, c'est se couper, justement. C'est se couper de tout ce qui peut nous faire la guerre. Amen. Déjà que la guerre, elle y est tout le temps. Alors, si on abonde dans ces choses-là, ça va être terrible. Hein. Et là, il leur dit, on retrouve encore quelques qualités. Regardez dans le chapitre 6 du livre des Actes concernant Étienne. Verset 7, il est dit ceci, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, regardez, encore, voilà, pour voir la gloire de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, demander au Seigneur, Étienne était plein de grâce, quand même, et de puissance. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et je vous rappelle qu'il a commencé à servir aux tables, hein, quand on lit Actes chapitre 6. Il y a eu un réveil, les hellénistes, c'était des juifs qui venaient du bassin méditerranéen, qui n'étaient pas restés en Israël. Ils venaient à la fête, pendant les fêtes, et là, ça s'appelait les hellénistes. Et là, il y avait du monde, et le texte nous dit qu'il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et regardez ce qu'il est dit, verset 10. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il était rempli de puissance, il faisait des miracles, il était rempli de puissance, gloire à Dieu. Et quand il ouvrait la bouche, personne ne pouvait le contrer. Et c'est pas étonnant qu'il a vu la gloire de Dieu. Il est dit ceci aussi. On va arrêter là. Ah oui, allez, le dernier verset. verset 15 du chapitre 6. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Voilà, comme vos visages ce matin. Amen. Amen. Eh oui, gloire à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu, quand il écrit aux sept églises, à chaque fois, il parle des anges. Et là, c'est les serviteurs de Dieu aussi sont appelés des anges dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui conduisent l'église. Allez, je ferme la parenthèse. Amen. Allez, on va voir un autre passage où il est question de la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, quand il est question de la transfiguration. Et j'ai bien aimé, je relisais encore ce passage hier soir et ce matin. Et vous savez, quand on va le lire, regardez, Luc chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il montait sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Là, il est question de la transfiguration. Hein? Et bien sûr, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ça me parle aussi du réveil. Ça me parle du réveil, pourquoi? Parce qu'il est dit qu'ils étaient appesantis. Et vous savez, quand on regarde la définition du mot appesanti, c'est mettre un poids, c'est alourdir la personne. Quand il pleut, nos vêtements, ils sont plus lourds, etc. Et ils n'étaient pas endormis. Et ils ont lutté contre le sommeil. Regardez, quand il est dit... verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Je me dis, mais Seigneur, si on veut voir ta gloire, il faut se tenir réveillé et lutter. Et ce matin, je riais tout seul et lutter contre le sommeil, c'est terrible, hein? Non, quand on lutte contre le sommeil. Et ils ont lutté contre le sommeil, et c'est parce qu'ils ont lutté. Alors bien sûr, c'était physique, mais spirituellement, je dois lutter contre le sommeil si je veux voir la gloire de Dieu. Et c'est une logique. Si je suis endormi, je vois rien du tout. Je suis dans mes rêves, et c'est pas les rêves qui vont nous amener plus loin, excusez-moi. Hein. Mais c'est d'être bien réveillé qui vont nous amener plus loin. Amen. Et c'est important, là, il est question de se tenir éveillé. Le diable, lui, il veut nous appesantir, il veut un petit peu nous... Il veut pas nous endormir complètement, mais être un petit peu somnolent, vous voyez. Si on est somnolent, ça va. Lui, il gagne du temps, il gagne du terrain. Et ce qu'il faut, c'est avoir la même attitude que Pierre, c'est se tenir éveillé envers et contre tout. Même si on a des coups... Ça vous arrive d'avoir des coups de pompe? Eh oui, quand on prend de l'âge, on a des coups de pompe. Hein. Surtout après manger, non? Oh là là, c'est terrible ça, de lutter. Allez, je vais regarder les infos. Il est 13h. Oh, pensez-vous, je mets, je regarde. 30 secondes après, il n'y a plus personne. Et à la fin, à 13h30, voilà, j'ai rien compris du message. Et il faut spirituellement se tenir éveillé. Je pensais à ces deux versets que j'ai mis sur mes notes. Simplement, je vous donne les références si vous voulez. Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On a besoin de veiller. Hein, l'ennemi veut nous faire tomber dans le sommeil. Romains chapitre 13, verset 11. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Amen. Et on a besoin de se tenir réveillé. Moi, je crois au réveil. Hein. Moi, je crois. Déjà, il faut se tenir réveillé. Hein, pas se laisser endormir, mais je crois qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est obligé. Je pensais à ce texte, c'est pas prévu là, hein, mais je pensais à ce texte de dans le livre des Actes, acte 2, 17, où Pierre commence son message de la Pentecôte, et qu'il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions sur vos vieillards et sur vos vieillards auront des songes, et sur vos serviteurs et sur vos servantes, je répandrai de mon esprit. Et je crois qu'il va y avoir une manifestation de l'esprit avant le retour de Jésus. Amen. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une manifestation de l'esprit. Peut-être qu'on va être même bousculé. Moi, quand Jésus dit que les premiers, c'était pas prévu ce que je vous dis là, hein, ça fait rien. Ça. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il me semble qu'il y en a qui vont venir là comme les derniers, les derniers convertis. Ils vont nous pousser, ils vont nous bousculer. Moi, j'en suis convaincu. Hein. On ne va pas laisser comme ça. Non, il faut que l'Église, un grand nombre soit sauvé. Quand on lit dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'il y avait une foule hein, de toute tribu, de toute langue qui confessait le nom du Seigneur. Amen. Et Seigneur, viens nous réveiller. Garde-nous éveillés. Amen. Et si on est éveillé, on voit la gloire du Seigneur. Un autre texte aussi, qui va un petit peu dans le sens de se tenir éveillé. C'est dans Colossiens, chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Là aussi, les questions de la gloire de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, c'est le verset 4 qui nous intéresse, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ça nous parle du retour de Jésus. Hein. Gloire à Dieu. On croit toujours au retour de Jésus. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va être changé. Fini les douleurs. Ah là là, on se couche bien et on se lève le matin. On aurait dit qu'on a fait 10 heures de maçonnerie, 10 heures de bétonnière, hein, alors qu'on se lève. Fini les douleurs. Amen. On va être changé, notre corps, hein, il va être changé en un corps céleste. Un corps, hein, il va nous donner un corps céleste, comme Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il avait déjà le corps céleste. Hein, il était immatériel. Il a traversé le mur quand il est arrivé, hein, que les apôtres étaient dans la crainte. Il leur dira, mais c'est moi. Et il était déjà, il traversait. Nous, on peut pas essayer de traverser là. C'est pas possible. Et on aura un corps céleste. Et quand il est monté, il y a des doctrines de fada, excusez-moi l'expression, et qui disent quoi, il est monté avec son esprit. Non, quand on lit le livre des Actes et la fin des évangiles, de chaque évangile, ou le jour de l'ascension, il est monté avec son corps. Et les hommes l'ont vu. Il était pris dans une nuée, nous dit le texte. Il est monté avec son corps. Et de la même manière, il reviendra quand on lit Actes chapitre 1er. Et quand il va venir sur les nuées des cieux, il va enlever l'Église. Et là, nos corps seront changés. Amen. Ah, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu pour son retour. Hein. Et on doit prier pour son retour. Hein. Je pensais à ce texte, je crois que c'est dans Apocalypse 22, c'est sûr, après le verset, je ne me souviens plus, où il est dit que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur ». Amen. Quand l'Église a cette pensée, Seigneur, viens, c'est que là aussi il va intervenir. Soyons prêts pour son retour, hein. Gloire à Dieu. Alors, plus terre à terre, il y a un passage aussi qui nous parle de la gloire de Dieu, et ça parle pour les églises. Pour votre église, pour l'église où je suis aussi, c'est dans dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15 et verset 7. Et j'étais heureux de trouver ce passage. Où il est dit ceci, Romains chapitre 15, verset 7. Regardez ce qu'il est dit. Je dis, mais c'est ça aussi, Seigneur, si on veut voir la gloire de Dieu. Vous avez trouvé ? Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et ça me parle, frères et sœurs. Et bon, dans le ministère, je l'ai vu, je l'ai entendu. Ça nous parle de l'accueil dans l'Église. Accueillez-vous. C'est important, ça, l'accueil. Si on veut voir la gloire de Dieu, il est question de... Et puis surtout, je vous le dis, je sais pas... Est-ce qu'il y a des nouveaux, là, ce matin? Oui, des nouveaux de longue date. C'est important, ça. S'il y a des nouveaux, c'est notre rôle... C'est votre rôle de les accueillir. Je peux vous dire que souvent, je l'ai entendu, des personnes venir, et parce qu'il n'y avait personne pour les accueillir, comme elles sont venues, elles sont reparties. Et si on veut voir la gloire de Dieu, d'ailleurs, c'est logique, je me disais, mais quand même, c'est logique, là. On accueille la personne, elle se sent bien. Pendant un temps, même si elle a besoin d'un tuteur, après, on la laisse pousser toute seule, mais pendant un temps. Et c'est là qu'on voit la gloire de Dieu, parce que la personne, elle vient, on l'accueille, elle se donne au Seigneur, elle s'engage par les eaux du baptême, et elle devient un chrétien, une chrétienne à part entière, dans l'Église. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu, non? On est d'accord? Mais si, je me dis, et des fois, on est comme ça, on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Des fois, on va vers ceux avec qui on a plus de liens, et le gars, il est tout seul, la personne, elle vient, elle est toute seule, et puis... Et personne pour l'accueillir, et elle repart. Et c'est important, ça, mes frères. Et c'est vrai que c'est naturel, des fois. On va vers... Mais s'il y a quelqu'un qui vient de... Alors, ne lui sautez pas dessus non plus, parce que ça aussi, on l'a vu dans le ministère. Eh oui. Vous lui sautez dessus, vous lui faites peur, et... Non, on l'accueille, voilà, on lui souhaite la bienvenue, et voilà, après, il y a toute une démarche qui va se faire. Mais c'est important. Moi, j'ai vu des personnes repartir et puis ne plus les revoir parce que ça manque d'accueil. D'ailleurs, je sais pas si dans certaines églises, ils ont un petit badge avec l'accueil et puis c'est bien, au moins. On peut aller vers la personne, on connaît les frères et sœurs, et les inconvertis, on ne les connaît pas, donc on les accueille. C'est important, ça. Et c'est ce que dit Paul, hein. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et là, on voit la gloire de Dieu. C'est important, l'accueil. Un autre passage aussi important pour l'Église. Ça va? Je vous fatigue pas trop? Jean 17, 22. Regardez. Ça va. On a un peu de temps. Jean 17, 22. Là, vous allez comprendre, hein, il n'y a pas besoin de faire de grandes études théologiques pour comprendre, là. Je leur ai donné, c'est Jésus qui parle, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et frères et sœurs, ça c'est inévitable. La gloire de Dieu, elle se manifeste quand Dieu voit l'unité. Amen. S'il n'y a pas l'unité, moi je suis cash, hein. S'il n'y a pas l'unité, pensez pas voir la gloire de Dieu, hein. Parce que la gloire de Dieu, elle se manifeste quand il y a l'unité. Amen. C'est clair, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus dira dans un autre texte, moi et le Père, nous sommes un. Si le Seigneur voit l'unité, il envoie la bénédiction, la gloire de Dieu, elle se manifeste. Amen. On est tous différents. On est tous uniques. On est d'accord? Donc, on a tous un caractère différent. Mais bien, la Bible dit, Colossiens chapitre 3, je crois, verset 13 ou 15, supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Ça fait partie de l'unité. On peut avoir des fois où, bon, ça frictionne, comme dans les couples d'ailleurs. Je sais que vous, dans vos couples, ça se frictionne jamais, mais bon. Mais c'est important, ça, l'unité. Amen. Et pas rester sur sa position. Non, c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai raison, pardon. C'est bien quand on dit c'est moi qui ai tort. Quand le mari dit c'est moi qui ai tort, ah là là, c'est formidable. Hein? C'est moi qui ai raison. Ne me touche pas, c'est moi qui ai raison. Ça, c'est dans les couples, hein. Et non, il faut savoir se pardonner et il faut chercher l'unité. Dieu, quand il voit l'unité, dans l'Église, il envoie la bénédiction et la gloire de Dieu, elle se manifeste. Amen. Amen. Hein, que Dieu nous, vous aide, que Dieu nous aide à chercher cette, toujours cette, cette unité. Allez, je termine avec la cerise. Ça, c'est la cerise. Après, on va chanter avec un chant, hein, le musicien et le batteur. C'est bien le batteur. Allez, tap, tap. Exode, je l'ai gardé. J'aurais pu commencer par celui-là, mais je, il est tellement beau ce passage. C'est quand Moïse va voir la gloire de Dieu. Exode 40, allez, on y va. Exode 40. Et je vous fais grâce des textes qui... On va lire le verset 34 et 35, mais pour voir la gloire de... On va lire d'abord, allez, on ne va pas anticiper. Alors, Exode 40, verset 34. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » C'est comme si maintenant Dieu descendait là, et qu'on sentait tous la présence de Dieu. Mais ça serait formidable, ça. Ça, c'est la gloire de Dieu, ça. Amen. Pour tout vous dire, j'ai vu cette manifestation que deux fois dans mon ministère. Après, bien sûr, après on est touché dans son cœur, il y a des moments, mais deux fois, j'ai vu cette manifestation de la gloire de Dieu. Vous avez cinq minutes? Après, on le relit. C'était pas prévu, là aussi. Hein. Excusez-moi, hein. C'était pas prévu. Mais... je l'ai vu que deux fois. C'est pas beaucoup, hein. La première fois, c'était quand j'étais pasteur à Pertuis. On invite un collègue, un pasteur. On avait la chorale était prête et tout à chanter. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. On n'était pas plus préparé que d'autres jours. Ça m'a marqué. Je l'ai jamais vu. Je l'ai plus jamais vu. Et la chorale s'était préparée, elle avait répété, les chants, ils étaient tout prêts. Le frère, il devait prêcher. Et il y a eu une visitation. Et les gens ont commencé à louer, à louer, à louer, à prier, à se repentir, à demander pardon. Et ça a été ça tout le long du culte. Le pasteur, il n'a pas pu prêcher. La chorale, elle est restée plantée là, je me rappelle. Et ma deuxième, elle me dit, mais papa, mais tu te rappelles de ça? Je dis, oui, oui. Et il y a eu le Dieu qui est descendu. Je vous garantis que ça, vous ne pouvez plus l'oublier. Hein. Ça vous touche. Ça, et rien que d'en parler encore, ça, c'est la gloire de... Et une autre fois, je vais faire une mission, là aussi. Bon, je suis invité. C'était à Montpellier, à la Paillade, pour tout vous dire. Et le frère, il m'invite. Et je prêche normalement. Il n'y a rien de spécial. Et puis, il y a un esprit de repentance. Presque les trois quarts de l'église... Ils étaient devant, à genoux, sans qu'on leur force, sans qu'on les force. Des fois, on nous dit, il faut vous mettre à genoux, et ceci, cela. Non, 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 on n'avait rien fait de cela. Et puis, les gens, ils étaient là, ils étaient repentants. Il y a eu une bénédiction, là. Et l'Église a été bénie. Voilà, c'était les deux seules fois. Après, bien sûr, Dieu nous visite, Dieu nous touche. Il y a des moments où il y a des élans quand on loue le Seigneur, etc. Il n'y a pas de souci quand on est visité par le Saint-Esprit. Mais là, c'était en commun, quoi. C'était en commun. Voilà. Ça va? Allez, on continue. Allez, on lit le verset 34 et 35. Et là, la gloire de Dieu, elle est descendue. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Mais pour voir la gloire de Dieu, je sais pas si votre Bible est ouverte. Moi, je l'ai souligné en fluo parce que je me dis, mais oui, il y a eu quand même une préparation. Il a fallu qu'il prépare tout pour voir la gloire de Dieu. Regardez, je vous cite quelques bribes comme ça. Moïse dressa, verset 18, il dressa le tabernacle, toujours dans le verset 18. Il plaça les planches, verset 20, il mit les barres, verset 21, il apporta l'arche, verset 22, il plaça. Et le verbe placer, on le voit à plusieurs reprises, il plaça. Verset 23, il déposa. Verset 24, il plaça. Verset 25, il arrangea. Verset 26, il plaça l'autel. Verset 27, il fit brûler. Verset 28, il plaça. Regardez. Verset 29, il plaça. Verset 30, il plaça. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Et après, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation. C'est parce qu'il y a eu quand même un protocole. Il y a une préparation. Et il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Ils se sont même lavé les mains. Non, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et lorsqu'ils s'approchèrent, ils se lavèrent comme l'Éternel leur avait ordonné, etc. Et ensuite, verset 34, la gloire de l'Éternel va se manifester. Il y a eu tout un cheminement là. Et j'avais jamais vu comme ça là. Il a fait, il s'est placé, il a placé tout ce que Dieu lui a dit de faire. Et paf, la gloire de Dieu, elle est descendue. Amen. Allez, conclusion. La gloire, elle doit revenir au Seigneur et pas à nous, hein. Dans le Notre Père, il est dit ceci, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Psaume 115, les musiciens, venez. Psaume 115, verset 1, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et enfin, psaume 66, verset 2, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos chants. Donc on va chanter la gloire. Alors on le connaît par cœur. Je ne sais pas si tu peux le mettre, le frère, il vaut mieux, parce que je le dis par cœur, mais des fois il peut y avoir des trous. On va se lever.